des livres plein les oreilles. Bonjour vous toutes et vous tous qui m'écoutez fidèlement, qui écoutez ce balado consacré au livre plein les oreilles. D'ailleurs, c'est le titre animé réalisé pour vous par Clotilde Seille, appuyé ô combien par l'ami Mathieu Tessier. Vous savez, quand je prépare ces balados, je le fais généralement avec en laissant monter soit des noms communs, soit des noms propres qui me traversent l'esprit. Et celui qui m'est venu en premier lorsque j'ai préparé cet épisode-là, c'est le nom plutôt, Groenland. Allez savoir pourquoi. Et devinez sur quoi je tombe. Eh bien, un livre, d'abord, devenu un livre audio ensuite, qui porte ce titre, Groenland, le pays qui n'était pas à vendre. Ça ne s'invente pas. Je me suis dit, il faut que j'aille mettre une oreille là-dessus et que je vous partage ma trouvaille. Et puis, en cette première partie, on va rester dans les grands froids, dans l'univers de ceux qui font de ces pays de neige nos polars préférés. Ensuite, il sera question de poudreuse, mais qui n'a rien à voir avec de la neige, même si ça lui ressemble. Et puis, on finira la première partie avec Ève Lambert, lue par Marie-Thérèse Fortin. Voici pour la première partie. C'est un suspense absolument glaçant et ce n'est pas un jeu de mots quand il s'agit du Groenland. Évidemment, c'est intéressant d'y voir toutes les références à l'actualité d'aujourd'hui. Rappelons que cette île recouverte à 80% de glace est très convoitée. Pourquoi ? Mais pour la richesse de son sous-sol. Mettons qu'il y a plus de pétrole au Groenland qu'au Soudan. Tiens, par exemple, un pays par hasard qui est en guerre, qui n'intéresse personne, et surtout pas vous savez qui. Alors c'est plus qu'un thriller, c'est un peu un polar politique qui met le doigt eh bien, sur cette réalité économique et géopolitique d'un pays qui ne pèse pas lourd hein, face à des grandes puissances comme celle de nos voisins. Et le résumé, alors l'auteur d'abord, c'est Mo Malo, j'imagine que je prononce mal son nom, mais c'est un O traversé d'une barre. C'est lu par Stéphane Cornicard. Je rappelle le titre, Groenland, le pays qui n'était pas à vendre. Et le résumé, 5 heures maximum. 5 heures, c'est le délai qui a été donné pour mettre aux enchères un pays, un peuple, le Groenland. Il y a 4 nations qui sont en jeu. Les USA, la Chine, la Russie et le Danemark. On se demande bien pourquoi, puisqu'après tout, ça leur appartient. Mais bon, c'est comme ça. Sous les yeux médusés de milliards de spectateurs, le premier ministre groenlandais, qui s'appelle Frédéric Carlsen, donne le départ. Est-ce une trahison ? Non, non, pas du tout. Il est menotté à sa chaise. Il est séquestré loin de tout. Sa femme et sa fille sont tenus en otage, suspendus à un câble d'acier au-dessus de la banquise. L'enjeu ? La vente du Groenland, extrait.
À jamais, il serait le premier des premiers. Celui qui avait bousculé 3 longs siècles d'histoire. Le premier ministre d'un Groenland enfin indépendant. Il s'appelait Frédéric Carlsen. Son nom fleurait encore le temps des colons. Peut-être un jour en changerait-il. Tout semblait possible dans ce monde nouveau. Depuis un an, il était aux yeux de son peuple le héros providentiel. Référendum initié par son parti victorieux, vote aux 2/3 du Parlement, processus accéléré, et enfin, l'inimaginable il y a peu encore, un avenir de liberté. Les Inuits, seuls maîtres aux commandes de leur île immense. Tout s'était produit en moins de 2 années seulement, avant que Nuna ne soit rendu au sien. Nuna, la terre originelle, en Kalaallisut, le Groenlandais contemporain. Tout cela, c'était son œuvre. À jamais, il serait aussi le dernier des derniers. Il s'apprêtait à devenir celui que tous haïraient. Que disait de lui, de sa trahison, la sueur glacée qui coulait sur son front ? Il expira longuement dans l'air gelé de la cabane. Seul, il était face au vide presque total de la pièce. Juste une chaise, une table, un ordinateur portable doté d'une webcam, une tablette électronique posée à gauche de celui-ci, un routeur Internet. C'était tout. Seul, il était face à l'écran sur lequel défilerait le spectacle de sa disgrâce. 5 heures indiquait le compte à rebours inerte en haut à gauche. Aucun titre, aucun mot inscrit, rien pour signifier le drame imminent. Juste les minutes qui s'égrèneraient, les millions et milliards qui s'envoleraient et 5 incrustations vidéo comme autant de participants. Frédéric Carlson comprit, seul et sidéré, dans sa salle vidéo. C'était à lui de prendre la parole.
Nous allons commencer. Je vous rappelle que selon les termes qui nous ont été imposés à tous, la durée de la vente ne pourra pas excéder 5 heures.
5 heures. Soit la durée du jour en cette saison à Nuuk. Il continua.
Sans offre finale validée à expiration du temps imparti, le processus sera annulé de plein droit.
Carlson agissait comme un automate. Il se vit presser une touche du clavier. Les secondes se mirent à filer. En un rien de temps, avant même que le champ frappé du symbole dollar ne s'illumine à son tour, il ne restait plus que 4 heures, 57 minutes et 3 secondes. 2 secondes. 1 seconde. 4h56.
Pour mémoire, l'enchère minimale est fixée à 100 millions de dollars, sachant que les propositions devront être formulées par palier de 100 millions.
Carlson déglutit douloureusement. Tout ceci lui semblait tellement irréel.
Alors, la suite au prochain épisode, et surtout la suite, eh bien, si vous écoutez Groenland, le pays qui n'était pas à vendre, désormais en audio, enregistré chez Telem, lu par Stéphane Cornicard, écrit par Mo Malleux, je pense. Une nouveauté, tiens, qui nous vient du froid, Les morsures du silence de Johanna Gustafsson, lu par Pascal Louange et Florent Houillet. Écoutez, c'est un livre que tout le monde, vraiment tout le monde, salue. L'arrivée de ce polar qui nous vient du froid, je vous le disais, un autre polar glaçant. On est sur une île, c'est l'île qui s'appelle Lindigö, qui fait face à Stockholm, une île sur laquelle un adolescent est retrouvé le crâne fracassé, alors que 23 ans plus tôt, une jeune fille avait été découverte assassinée, elle aussi, au même endroit, dans un costume traditionnellement destiné à fêter la Sainte Lucie. Une fête qu'on célèbre beaucoup en Suède. Alors, à l'époque, le petit ami de la victime avait été condamné pour ce meurtre qu'il a toujours nié. Est-ce de ce petit ami dont il est question dans l'extrait qui vient? Je pense que oui, et c'est là tout le lien qui existe entre l'extrait et le livre. Alors, extrait de « Les morsures du silence » de Johanna Gustafsson.
Elle garda ses chaussures et poussa la porte de la salle de classe. Lucas se redressa d'un coup, secoua la tête et esquissa un sourire confus, puis cligna des yeux en descendant de son bureau avec lenteur. La colère d'Anna se mua en rage, comme s'il avait appuyé sur un interrupteur. Elle ferma la porte, s'y adossa et sortit son arme. Les enfants hurlèrent avant même qu'elle la pointe sur Lucas. Certains se recroquevillèrent, d'autres se blottirent sous leur table. Lucas, lui, se figea, la bouche ouverte, sans émettre le moindre son. C'était bien la première fois.
« Allez tous vous mettre autour de Lucas! Assis, par terre, allez !»
Avec le canon de son arme, Anna dessina un ovale englobant tous les élèves. Les chaises grincèrent, les chaussettes glissèrent sur le linoléum.
« Je ne veux rien entendre, compris? Pas un bruit, pas un son, pas de pleurs !»
Parmi la vingtaine d'enfants de 11 ou 12 ans, elle remarqua une fillette blonde, assise en tailleur, les yeux fermés et les mains jointes, blottie entre ses cuisses. Ses lèvres bougeaient en silence. La raie médiane qui séparait sa chevelure semblait avoir été tracée à la règle, et le col de son polo était si lisse qu'il paraissait à mi-donné.
« Toi, avec le serre-tête en perles et le polo bleu à rayures, » dit Anna, « va fermer les stores. »
Les regards se tournèrent vers la fillette, qui baissa les yeux sur sa poitrine
comme si elle avait oublié quel vêtement elle avait enfilé une heure plus tôt. « Allez !» Le regard rivé par terre, la petite se leva en mordillant ses lèvres, aussi pâle que sa peau, et se faufila derrière ses camarades pour accéder aux fenêtres les plus proches. Le premier store résista un instant, puis crissa en s'ouvrant en éventail, arrachant des cris aux enfants. « Ça suffit ! Pas un bruit, j'ai dit !» La petite se reprit et tira sur la ficelle pour établir l'horizontalité des lamelles avant de faire descendre le store jusqu'à ce qu'il claque sur le rebord de la fenêtre. Elle recommença avec les deux suivants, puis gagna les fenêtres de l'autre côté de la pièce en caressant ses paumes, comme si elle tirait sur les manches imaginaires de son polo. Elle ferma les trois derniers stores qui donnaient sur la cour et fila à sa place. « Viens ici !» La fillette se figea et jeta un regard terrifié à son maître. Lucas ouvrit la bouche, hésita, puis se décida à parler. « Anna, s'il te plaît, tais-toi ! Tais-toi, je ne veux plus entendre ta voix, t'as compris ? Je ne veux plus t'entendre !» Elle s'appelle Louise Dahl, Anna ne... Anna traversa la salle de classe en quelques enjambées. Lucas plongea au sol, les mains en l'air. Elle planta son arme au sommet de son crâne. « J'en ai rien à foutre de son nom !»« D'accord, Anna, pardon, tais-toi, j'ai dit !» Elle se redressa, sortit son téléphone de la poche de sa parka et le déverrouilla d'un rapide glissement du pouce sur l'écran. « Viens ici !» ordonna-t-elle à Louise, qui était restée plantée face à ses camarades, sans oser s'asseoir. Ses frêles épaules secouées de tremblements, la petite s'avança. Tout en gardant le canon de son arme collé au crâne de Lucas, Anna se pencha en avant et serra le menton de la fillette entre le pouce et l'index. Louise ferma les paupières de toutes ses forces. « Regarde-moi, » dit Anna. Louise rouvrit des yeux débordants de larmes. « Tu vas nous filmer et ne t'amuse pas à appeler qui que ce soit, tu as compris ?» Louise acquiesça de plusieurs mouvements de tête en contractant les mâchoires pour retenir ses sanglots. « Attention, ça tourne !» dit Anna, alors qu'elle lui tendait l'appareil. « Je m'appelle Anna Elström. Le 28 mai, mon fils Gustav s'est pendu. » Elle se mordit la lèvre inférieure pour se retenir de crier. « Mais c'est vous tous qui l'avez poussé au suicide. Votre harcèlement, vos accusations, vous avez tous le sang de mon fils sur vos mains. »
Oui, c'est bien écrit. Effectivement, c'est un polar qui m'a l'air glaçant comme tous ceux qui se passent dans le Grand Nord. Et c'est un bon livre à lire en été, par exemple. De cela, on va passer à Poudreuse. Et là, non, je ne voudrais pas que vous pensiez que j'ai fait la joke plate, Poudreuse, la neige, le froid, etc. C'est arrivé comme ça. En faisant des recherches, je suis tombée sur ce livre québécois et ça a été enregistré au Québec, chez Audio, Radio-Canada. Et donc, c'est tellement rare maintenant qu'il faut en parler de ces livres-là. C'est écrit par Sophie Lalonde-Roux, c'est lu par Sam Éloi Girard. L'histoire est celle d'un jeune adulte désœuvré, là je lis le résumé que j'ai trouvé sur Radio-Canada, qui est en proie à des problèmes de dépendance, qui est mis dehors par sa mère dans une tentative désespérée de le pousser à se prendre en main. Il est livré à lui-même. Dans les rues de Montréal, il rencontre Étienne, un étudiant en médecine qui va l'aider à sortir de tout ça, mais qui paradoxalement devient son partenaire de consommation. Alors, on suit de près, d'abord la haine qu'il voue à son père, cette relation qu'il a avec son pusher, entre guillemets. Finalement, il décide de s'exiler en Gaspésie. Il devra faire face à ses dépendances. Et ça va très, très loin, comme d'ailleurs va en témoigner cet extrait. Extrait donc de Poudreuse de Sophie Lalonde-Roux, gagnant du prix littéraire des collégiens et des collégiennes 2024-2025.
La première chose que je remarque quand je me réveille, c'est l'odeur. Ça sent la maladie. Ça sent l'hôpital. J'ouvre les yeux lentement parce que les néons me brûlent la rétine. Je prends le temps de bouger mes orteils, mes doigts, puis tout a l'air là. J'entends une voix me demander si ça va, mais c'est une voix que je connais pas. Puis je me tourne en m'attendant à voir un infirmier ou un médecin. mais c'est juste un inconnu assis dans une chaise. Son regard me fait mal. Comment tu te sens? Je sais pas, j'ai faim, j'ai soif. Je me sens comme si j'avais un trou dans la gorge. Une trachéotomie. J'ai peur de me mettre à parler parce que j'ai l'impression que je vais avoir une voix de robot. Je touche mon cou. Pas de trou. C'est juste dans ma tête. Comme beaucoup de choses. Une infirmière rentre dans la chambre pour prendre ma pression. Elle me pose 1000 questions auxquelles je suis pas capable de répondre. Je me rappelle même pas de mon nom. Tout ce dont je me souviens, c'est de la lumière salvatrice du azur sur la ligne verte. J'étais sûr d'avoir sauté. Elle part en me disant que ma mère va être contente de voir que je suis réveillé. Je suis resté pogné 4 jours à l'hôpital avant qu'il me donne mon congé. L'inconnu est revenu me voir une couple de fois, puis j'ai finalement appris que c'est lui qui m'avait tiré vers le quai alors que j'avais un pied dans le vide. Le fameux gars qui m'avait demandé si ça allait. Après quelques jours, j'ai voulu savoir son nom. Ah, mon nom à moi, c'est Étienne. Fuck you. J'ai fait une crise de panique tellement violente que les infirmières m'ont shooté un sédatif. Juste avant de disparaître dans le couloir, le gars s'est retourné une dernière fois, puis j'ai eu l'impression de voir dans son regard quelque chose de familier. Une douleur camouflée, un peu de pitié. Comme si, pendant un instant, c'était Étienne qui me regardait. Le vrai Étienne, mon Étienne. Brièvement réincarné pour me sauver la vie une autre fois. Me tirer loin du gouffre qui s'ouvre toujours plus grand devant moi. Ma mère prend soin de moi tous les jours. J'ai fait un deal avec elle. Je vais pas en désintox à condition que je sois toujours accompagné d'un adulte. Elle a accepté juste parce que j'ai fait une crise quand elle m'a parlé du centre. Je peux pas être loin de tout puis entouré de monde comme moi. Ce serait comme de me forcer à regarder dans un miroir. Ça fait qu'elle a demandé à ma grand-mère de me garder quand elle est au travail. Je me sens comme si j'avais 5 ans. Ça me dérange pas, j'ai pas confiance en moi de toute façon. Le sevrage est rough. Je prends 1000 médicaments, mais ma mère les garde cachés parce que tout ce que j'ai envie de faire, c'est d'en sniffer jusqu'à ce que mon cerveau se mette à flamber. Je m'en crisse que ça bosse pas, je veux juste que ça brûle. Je suis sur un programme de méthadone qui fait qu'à chaque tabarnak de jour, faut que j'aille m'humilier puis prendre ma dose devant un pharmacien. Ça a beau aider mon sevrage d'héroïne, y a rien pour remplacer la coke. Je vais péter aux frais d'ici 3 jours si je me claque pas une ligne. À l'hôpital, le médecin m'appelle Loup Antoine. Juste un mot, avec le P puis le A connecté. C'est laid en crisse, mais je le corrige pas. Il me dit que j'ai fait une psychose avant même que je puisse lui dire que je veux rien entendre. Je veux pas plus d'informations. Anyway, ça concerne Loup Antoine, puis je sais pas c'est qui ce gars-là.
Ouais, très très belle réalisation, belle écriture, belle écriture, hein, on s'entend, c'est un sujet qui marque, et puis très belle lecture, on s'en faisait la remarque avec mon ami Mathieu Tessier. Je vous rappelle le nom d'abord de l'autrice, Sophie Lalonde-Roux, et le nom du comédien, narrateur, Sam Éloi Girard, qui a bien... on se le disait, qui a bien retenu sa voix. C'est vraiment la voix qu'il fallait. Très, très bon casting. Chapeau. Et puis, je pense aussi un livre qui vaut le coup qu'on y jette une oreille, voire les deux, c'est encore mieux. C'est le cas aussi du livre de Kev Lambert, bon, qui est sorti il y a maintenant déjà 2 ans. Mais qui existe maintenant, qui est au catalogue audio de Radio-Canada parmi tous les livres qui sont sur leur site. Et vous savez que ce sont des livres gratuits, c'est-à-dire que vous ne les payez pas, mais vous les avez déjà payés avec vos taxes. Mais après tout, pourquoi pas s'y prendre comme ça pour que les livres audio existent. Et Kev Lambert, anciennement Kevin Lambert, qui a subi une transformation, qui ne s'en cache pas, qui en parle ouvertement, et dont les écrits sont souvent teintés d'ailleurs de ce choix délibéré. Il a écrit en 2023, et on s'en souvient beaucoup, Que notre joie demeure, qui a quand même obtenu le prix Médicis Général en 2023 et le prix Décembre aussi en 2023, que l'on connaît moins. C'est lu par la non moins envoûtante Marie-Thérèse Fortin, également dans les studios de Radio-Canada. L'histoire de Que notre joie demeure est celle d'une architecte dont le nom n'est plus à faire dans son domaine. Elle s'appelle Céline Wachowski ou Wachowski. Elle dévoile enfin l'architecture prévue sur plan d'un complexe WeBuy, qui est un projet ambitieux, un projet structurant, surtout le premier grand projet public qu'elle va réaliser pour Montréal, qui est sa ville d'origine. Mais les critiques fusent de la part de militants qui accusent Céline de détruire le tissu social, d'accélérer l'embourgeoisement des quartiers, dont on parle beaucoup depuis quelques années dans certains quartiers de Montréal. Alors c'est la classe dirigeante que Kevin Lambert à l'époque, Kev Lambert aujourd'hui, met en scène ici. On se demande quelle fiction se raconte pour justifier les privilèges des gens qui sont architectes eux-mêmes et qui bâtissent comme ça, sans, un petit peu à la va-vite, sans se poser des questions sur le plan social ni sur le plan humain. Que notre joie demeure, qui fait entendre les points de vue et les pensées secrètes de ces personnages, qui peint aussi ce livre, le portrait clairvoyant du Montréal d'aujourd'hui. Bref, ceci explique tout cela, explique les prix reçus. Et écoutons la lecture que Marie-Thérèse Fortin fait de Que notre joie demeure, du moins un extrait.
Deuxième partie. Chapitre 1. WeBuy avait choisi les ateliers CW pour son nouveau siège social de Montréal, mais ce n'était pas le projet dont avait rêvé Céline Wachowski. Elle avait voulu donner à la ville sa place des arts, sa grande bibliothèque, son pont Champlain, l'une de ses universités ou l'un de ses gratte-ciels. Elle avait voulu signer de son nom un bâtiment iconique qui établirait la renommée et la silhouette de la métropole, un édifice qui attirerait les touristes de partout dans le monde et scellerait une sorte de reconnaissance mutuelle entre la ville et son architecte. Elle avait rêvé au début de sa carrière d'être ce nom qu'on associerait immédiatement à Montréal, comme Le Corbusier à Chandigarh ou Miss Van der Rohe à Chicago. Elle travaillait depuis ce que les spécialistes appelaient sa période résidentielle à donner à ses constructions ce puissant effet d'attraction qui leur permettait de figurer sur les pages touristiques de toutes les villes où Céline Wachowski avait signé un grand projet. Sa firme avait changé le skyline de San Francisco et ajouté sa touche discrète à ceux de New York et de Bangkok. Leur musée figurait parmi les plus visités à Los Angeles et à Tokyo. L'architecture qui l'intéressait, celle au fondement de la mission des ateliers CW, était un art du peuple. L'architecture n'est-elle pas la forme d'expression artistique la plus lourde, la plus massive, la plus coûteuse, la plus dépendante de la sphère politique, mais aussi la plus accessible et la plus démocratique à la fois? Un bâtiment, Céline voulait le croire, pouvait métamorphoser la vie des gens. L'énergie d'un quartier, inscrire un peu de beauté dans le quotidien des hommes et des femmes qui croisaient son chemin. Son art demandait énormément de moyens, mais il possédait aussi ce pouvoir d'alléger la souffrance et de briser la linéarité des existences, de susciter des émotions profondes et enfouies, de donner aux individus cette impression de faire partie de quelque chose de plus grand que soi. Le chantier qu'elle mènerait pour Montréal, l'un des derniers projets d'envergure sur lequel elle travaillerait avant sa retraite, serait un partenariat public-privé qui ne correspondait pas aux contours de l'emporte-pièce que Céline s'était forgé pour découper la pâte vive de sa mémoire affective. Le client ne souhaitait pas s'installer au centre-ville, trop usé, trop vu, trop touristique à son avis. « Not attractive enough for our workers from San Fran and Seattle. » WeBuy n'était pas intéressé par l'idée d'un gratte-ciel. le nouveau siège social se situerait à l'écart des circuits touristiques et des lieux les plus fréquentés. Il restait à trouver le terrain. Mais le centre-ville, tout ce qui se situait entre le fleuve et l'avenue Van Horn, à moins d'une occasion exceptionnelle, était écarté. Céline avait commencé les études de faisabilité avec un deuil à faire. Le deuil d'une idée floue, inaboutie et peut-être d'autant plus difficile à oublier qu'elle n'avait pas connu de forme concrète. Céline avait amorcé une pénible chasse pour traquer les ramifications de ce rêve pâli. Ce bâtiment fantôme apparaissait à l'horizon de tant d'autres plans. Ses sculptures de verre et de bois s'étaient construites sur la ruine d'un vieux rêve inabouti qui avait changé d'emplacement 1000 fois, chaque fois qu'une mise en vente ou qu'une démolition lui parvenait à l'oreille. Le bâtiment conservait, malgré sa présence disparate, une unité fournie par sa douloureuse inexistence. Le trait commun qui rassemblait toutes les esquisses mentales et les dessins croqués dans de petits carnets n'était rien de plus que cette absence, cette négativité vertigineuse. Ce trou dans la créativité de Céline n'était-il pas le caractère le plus imposant du monument fantasmé? Une vacuité infinie formait l'armature de cet édifice qui lui pesait sur les épaules et qu'elle traînait partout avec elle. Son chef-d'œuvre existait dans les limbes de son imagination. Il était pour cette raison plus vrai que beaucoup d'autres maisons que Céline avait conçues du sous-sol au grenier.
La voix de Marie-Thérèse Fortin lisant un extrait de « Que notre joie demeure » Kev Lambert, excusez-moi, tout d'un coup j'ai eu un espèce de petit blanc de mémoire, ça arrive, vous savez, à mon âge. Mais je me suis reprise. Je manque de temps pour vous... Je vais quand même vous toucher un petit mot de ce qui arrive en Suède, un véritable choc, puisqu'on parlait des polars qui nous viennent du froid. Un des grands noms suédois qui revient sur toutes les lèvres quand on parle de polars suédois, c'est Camilla Läckberg, qui a décidé qu'elle allait signer pour 2026 10 romans qu'elle n'a pas écrits. Pourquoi? Comment? Eh bien parce que, de toute façon, tout le monde se moque de son écriture, dit-elle. Alors, certaines voix, même certains critiques s'amusent à l'idée que son nom est beaucoup plus importante que son écriture. Alors, elle a décidé, elle s'est dit, si les gens croient ça, je vais procéder ainsi, c'est-à-dire je vais donner mon nom, mais c'est plus moi qui vais les écrire. Et elle va s'entourer, comme ça se fait déjà aux États-Unis, par 3 autres écrivains. Donc, tous les prochains bouquins de Camille Läckberg, je vous le dis, ne seront pas écrits par elle. Ils seront peut-être meilleurs. Oh, non, j'ai pas dit ce que je viens de dire. Oh, mais ce sont des bons polars qui viennent du froid. C'est Clotilde Say, je vais m'entretenir dans quelques secondes avec l'ami Gérald Cousineau à l'émission Des livres, au balado. Des livres plein les oreilles. Bonjour, cher Gérald.
Bonjour, chère Clotilde.
Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je sais que l'auteur dont il sera question est quelqu'un qui a ravi déjà vos oreilles par le passé. Je vous le laisse nous le présenter.
Oui, c'est un jeune homme d'à peine 53 ans. Je crois, né en 1973, un monsieur d'origine italienne et suisse, un certain Giuliano da Empoli. Ça vous dit peut-être quelque chose?
Oui.
Bon, d'accord, j'en suis ravi.
Oui.
Alors, ce monsieur a quelques livres à son actif, mais on l'a découvert surtout en 2022 avec un premier roman qui s'appelle « Le bar du Kremlin », qui a eu un immense succès, traduit dans plus de 30 langues quand même, pour un premier roman, c'est pas mal. Et il a écrit des essais. Le tout premier remonte à 2019, « Les ingénieurs du chaos », que je vous recommande chaudement. Et le tout dernier dont on parle aujourd'hui, bien sûr, l'heure, et non pas l'or, comme j'entendais parfois dire, l'heure des prédateurs, paru donc en 2025, un tout petit livre. Hein. Oui. Si vous l'écoutez, ça fait à peine 3 heures. Mais cette fois-ci, plutôt que de parler, je vais vous proposer qu'on écoute tout de suite l'extrait, parce que après ça, on pourrait démêler tout ça.
Exactement.
Personne n'incarne mieux que Lula ce mélange d'hommes d'État et de gamins que Mérimée observait déjà chez Palmerston. Il s'embrouille, appelle Macron Sarkozy. Il en a trop vu, lui aussi, une vie d'ouvrier, 30 ans de lutte, la prison, puis deux mandats de président du Brésil, la Bolsa Familia qui attirait des millions de Brésiliens de la pauvreté absolue. Puis, la chute. À nouveau, la prison pour un scandale absurde. Et enfin, l'acquittement, la résurrection. Et à 76 ans, une nouvelle élection à la présidence. Aucun dirigeant au monde ne peut se targuer d'un tel parcours. Lula plaisante, il provoque, il a tout vu, mais il est encore capable de fulgurance. Il sait faire rire et il sait émouvoir. Il entre dans une salle pleine de chefs d'État et la fait sienne. À la fin de la réunion, il évoque Haïti, sa capitale aux mains des gangs. Il s'engage à s'en occuper. Le président français lui présente Dany Laferrière, justement ressortissant de là-bas. Lula s'enthousiasme, embrasse Dany, lui tape dans le dos comme un frère perdu de longue date. « Et voici un autre écrivain, » lui dit Macron. « Mais je ne suis qu'italien, » lui dis-je un peu embarrassé. Lula rigole, me console d'une accolade.
Alors, bon,
je ne suis qu'italien.
Je ne suis qu'italien. Alors ça, c'est l'auteur qui parle, donc qui écrit un essai sur ce regroupement, cette réunion de grands chefs d'État enfermés dans un bureau dont le fameux Lula, le Brésilien dont on vient d'entendre parler. Alors, pourquoi cette réunion? Pourquoi l'heure des prédateurs?
Il faut dire d'abord que notre ami D'Ampoli a été, je dis a été parce qu'il semble qu'il ne l'ait plus, même si dans une critique, on en parle encore, de lui comme un conseiller politique, il semble qu'il ne le soit plus, mais il l'a été en tout cas. Il a été conseiller politique auprès de chef d'État, du chef d'État italien pendant quelques années. Le livre a montré qu'il a beaucoup côtoyé de chefs d'État, justement, et on retrouve leur nom dans l'heure des prédateurs. Donc, c'est une série de voyages. En fait, on devine qu'il en a fait quelques-uns auprès des grands de ce monde, parce que là, il a parlé de Lula. Il va évidemment parler de Macron, il va parler de Trump, etc. Donc, on se promène dans les grandes villes. Et il remonte aussi jusqu'en 1931, où il n'était pas. Évidemment, il va parler de Curzio Malaparte. Oui. Et là, je me dois absolument de citer, oui, la citation qui commence le récit, parce que c'est savoureux et senti long sur notre époque. Alors, Curzio Malaparte, cet écrivain italien, écrivait, et je cite textuellement, « Parmi les héros dont Plutarque nous raconte les vies exemplaires, les gentilshommes étaient assez rares. » Les gentilshommes sont assez rares. Voilà, il met ça au présent. Les gentilshommes sont assez rares. Alors, j'ai tellement aimé cette phrase que je l'ai gardée. Je l'ai gardée. Mais c'est vraiment ce qu'on trouve au tout début de cet essai, de cette chronique de D'Ampoli. Et ça donne le ton, parce qu'effectivement, les chefs d'État dont il nous parle, force est d'admettre qu'ils ne sont pas toujours, ils ne se comportent pas toujours comme des gentilshommes. On pense à Trump, évidemment, parce qu'il l'a fréquenté, D'Ampoli l'a fréquenté, donc c'est ça. Il se promène d'une grande ville à une autre, il observe, et quel observateur que ce monsieur D'Ampoli. Oh là là, qu'il sait observer, et il sait surtout parler de ce qu'il a vu et entendu. Donc c'est ça, c'est un peu, ça peut paraître un peu discontinu, parce qu'effectivement on se promène, mais pourquoi se définit-il comme scribe aztèque? Ce sont les premiers mots, les premiers mots qu'on trouve. Eh bien, il fait un parallèle entre la situation des Aztèques au XVIe siècle quand ils voient arriver les galions espagnols. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ces galions? Les conquistadors. Et il compare, bien sûr, les conquistadors du XVIe siècle arrivant au Brésil avec les prédateurs d'aujourd'hui, les autocrates et surtout, bien sûr, les seigneurs de la technologie. Pour lui, ce sont les prédateurs d'aujourd'hui, ce sont en fait les nouveaux conquistadors. Donc ces gens-là, bien sûr, peuvent se permettre tout et D'Ampoli donne l'impression qu'aujourd'hui, ce qui les régit, c'est uniquement la force brute. D'ailleurs, on le sait, notre ami Trump aime régner par la peur. Il aime régner par la force. Il n'est pas le seul. Poutine fait la même chose en Russie. L'Argentin n'est pas loin de... Le Chinois, bien sûr, le Nord-Coréen. Donc, la liste est longue. Là, il va faire en parallèle un autre détour par l'Arabie saoudite. Il va nous présenter, faire un petit portrait de celui qu'on appelle MBS, le prince régnant. Il nous raconte une anecdote assez savoureuse, mais on la connaît, je pense, pour la plupart. Comment MBS est arrivé à être le seul dirigeant d'Arabie saoudite? C'est assez savoureux, en effet. Alors, il faut vraiment écouter ce passage-là. Alors, il est devenu le patron, mais un patron, quand ceux qui, si vous ne le connaissiez pas, vous le rencontrez, oh, un homme très affable, très souriant, mais attention, c'est quand même, et le mot dictateur n'est pas dit dans le livre, mais c'en est un. Il côtoie quand même quelques dictateurs dans sa longue carrière, et le prince régnant d'Arabie en est un autre. Mais ce qui ramène tous ces gens-là, ce qui amène tous ces gens-là ensemble, c'est bien sûr l'argent. Parce que la technologie, c'est une source incroyable d'argent. Il fait mention, évidemment, de l'intelligence artificielle. Et là, on retrouve un drôle de bonhomme, en 98, un certain Henry Kissinger, qui apparemment découvre avec stupeur l'intelligence artificielle qui commence à faire ses premiers pas. Bon, je n'étais pas au courant de cette anecdote, mais c'est assez intéressant quand même. Donc, il va vraiment nous faire découvrir tout ça. C'est un livre court, je l'ai dit, hein, donc ce n'est pas une somme sur la technologie d'aujourd'hui, mais surtout ceux qui la dominent et leur collaboration, évidemment, avec les autocrates du style de Trump. Pourquoi cette alliance entre autocrates, dirigeants populistes et la technologie? Dans tout le livre, d'ailleurs, on dit la tech. On ne dit pas le mot technologie. Alors, pourquoi cette alliance-là? Eh bien, c'est ça qu'il va explorer. Pourquoi ces gens-là sont attirés par la technologie, par la tech? Évidemment, on devine qu'au fond, il y a l'argent, parce que tout cet argent-là vient du fait qu'on peut se permettre tout ou presque, parce que, justement, on est appuyé par certains dirigeants. Pas tous, heureusement, mais il y a quand même des continents comme l'Europe qui essaient de résister un peu à cette poussée tech, en fait, poussée des dirigeants de la techno. Mais quand même, c'est un portrait, je dirais, assez glaçant. Mais pour avoir écouté Dan Poli dans quelques entrevues, parce qu'on peut en trouver plusieurs dans Internet, pour l'avoir écouté, il y a quand même un petit espoir. Et moi, je dirais que l'espoir vient en fait de M. Dan Poli lui-même et des personnes qui lui ressemblent. Car quand on a cette intelligence, cette finesse d'esprit, ben, moi, ça me rassure. C'est un portrait glaçant, c'est vrai, qui peint de la réalité contemporaine. Mais en même temps, on se dit, il y a d'espoir parce que, et les trois mots, termine le livre, c'est quoi? Ben, la lutte continue. Alors, on se dit, ben coudonc, est-ce qu'il y a espoir? Ben oui, moi je pense que, moi qui suis de nature pessimiste, avec ce livre-là, ben, il y a quand même de l'espoir parce que si chacun se défend, si chacun défend son bout de terrain et si chacun lit ce genre de livre et lit le genre ces personnes-là qui se tiennent debout, les intellos qui se tiennent debout, et il y a certains aussi, je dis pas, qui se tiennent debout, eh bien, on peut espérer que les choses n'iront pas de pire en pire, de pis en pis.
Je lisais quelque part que cet essai-là aurait pu s'appeler « Réveillez-vous ».
Oui.
Oui. Vous êtes d'accord avec ça?
Ah, tout à fait. Et d'ailleurs, je parlais des entrevues de Dan Poli, mais ce que j'apprécie aussi, c'est la façon dont il parle. De façon toujours, c'est toujours lisible, en fait, lisible, audible, si on veut, mais il n'y a pas de charabia chez lui, pas du tout. Il parle avec lentement, on comprend tout, et on devine la culture de ce monsieur, l'intelligence de ce monsieur. Et je pense que tant qu'il y aura des gens comme lui, eh ben, justement, on peut espérer que les choses vont peut-être pas changer du jour au lendemain, on s'en doute, avec certains dirigeants qu'on a, mais quand même, il ne faut pas baisser la tête, il ne faut pas baisser ta vie, il ne faut pas rendre les armes. Et ce genre de livre, à mon avis, justement, ça peut nous inciter à nous tenir debout.
Bien dit, mon ami, très, très bien dit. Gérald Cousineau qui nous parlait de l'heure des prédateurs de Giuliano da Empoli, qui est un homme journaliste, auteur, dont l'acuité nous est essentielle par les temps qui courent pour comprendre ce qui se trame dans tous les bureaux du monde.
Et je vous recommande bien sûr son roman, si vous n'avez pas lu Le Marc du Kremlin, c'est un bijou.
Merci Gérald, ravi encore une fois de vous avoir entendu parler de façon aussi éloquente d'un bouquin que je suis sûr que certains auditeurs vont se procurer de suite. Merci beaucoup Gérald, bonne fin de journée.
Au plaisir.
Oh oui. Et comme toujours, dans ce balado des livres pleins les oreilles, on va finir avec quelques nouveautés, dont celle très attendue de Haruki Murakami, que j'aime tant, auteur japonais complètement dément, autant par sa poésie que par sa folie. C'est lu par Damien Delésir. C'est quand même une brique que, comme souvent avec Murakami, quoique pas toujours, non, il nous a pondu des petits livres aussi. Mais celui-ci, en heure d'écoute, c'est quand même 23 heures, presque 24 heures d'écoute. Nous sommes avec un homme dont la femme disparaît. Un jour, inexplicablement, cet homme s'appelle Toru Okada, sa vie bascule et emporte avec elle, eh bien avec la disparition de sa femme, emporte tous les repères qu'il a du monde. C'est dans une réalité qui s'enfuit sous d'excentriques mirages, écrit-on, que le jeune homme s'éveille un matin. Un espèce de théâtre d'ombre et de lumière qui débute avec de mystérieux coups de téléphone. Et puis là, il y a toutes sortes, comme toujours chez Murakami, il y a toutes sortes d'êtres qui vont arriver là, monstres ou êtres humains, on n'en sait rien, ils sont inclassables. Ils arrivent aux confins d'un univers qui est guidé par quoi ? Par le chant d'un oiseau à ressort, d'où le titre du livre. Haruki Murakami crée des univers dont on est aussitôt prisonnier. Le charme opère, on est absorbé par cette lecture qui tient du manga et de l'Uchronie, mais aussi et surtout par une atmosphère qui n'appartient qu'à Murakami. Ce n'est pas moi qui le dis, même si j'aurais voulu le dire de façon aussi aisée, mais c'est Amélie Nothomb dans Le Monde des Livres qui s'exprimait sur le livre de Murakami, Chronique de l'oiseau à ressort, lu par Damien Le Délésir, dont on écoute un extrait maintenant.
Chaque fois que quelque chose me tracasse, je me mets à repasser mes chemises. Une vieille habitude. Ma technique de repassage de chemise se divise en 12 étapes. Ça commence par 1, col, endroit, et se termine par 12, manche gauche, poignet. C'est un ordre absolument incontournable, que je suis toujours scrupuleusement, en comptant les étapes une à une. Si je ne procède pas de cette façon, mes chemises ne sont pas bien repassées. Tout en savourant les effluves de coton chaud et les sifflements du fer à vapeur, je repassais soigneusement 3 chemises, les suspendis tour à tour sur des cintres dans la penderie après avoir vérifié l'absence du moindre faux pli. Puis j'éteignis le fer, le rangeai dans le placard ainsi que la planche à repasser. Je me sentais la tête un tantinet plus claire. Je m'apprêtais à aller boire un verre d'eau dans la cuisine quand le téléphone sonna à nouveau. Allons bon. J'hésitai quelques secondes, puis décidai de répondre. Si c'était à nouveau cette femme, je pourrais toujours raccrocher en prétextant du repassage à faire. Mais cette fois, c'était Kumiko. Je regardais le réveil posé sur la télé. Il indiquait 11h30. « Tu vas bien ?» demanda ma femme. « Très bien, » répondis-je, soulagé que ce soit elle. « Qu'est-ce que tu faisais ?» Du repassage. « Il y a quelque chose qui ne va pas ?» s'enquit-elle, avec une légère tension dans la voix. Elle savait bien que je me mettais à repasser quand mon esprit était en pleine confusion. « Non, rien. J'avais juste quelques chemises à repasser. Rien de spécial. » Tout en parlant, je m'assis sur une chaise, fis passer le combiné de ma main gauche à ma main droite. « Tu avais quelque chose à me dire ?»« Oui. Tu saurais écrire des poèmes ?»« Des poèmes ?» répétai-je, abasourdi. « Des poèmes ? Qu'est-ce que c'était que cette histoire ?» Un magazine que je connais en publie en supplément des romans feuilletons destinés à un public de jeunes filles. Ils cherchent quelqu'un pour sélectionner et corriger les poèmes que les lectrices leur envoient. Il faudrait aussi écrire un poème chaque mois à placer en début de rubrique. C'est un job plutôt facile, bien payé en comparaison du travail que ça représente. Évidemment, ce n'est pas un poste fixe, mais si tu te débrouilles bien, tu pourrais travailler à la rédaction par la suite. « Plutôt facile ?» m'exclamai-je. « Attends un peu. Moi, ce que je recherche, c'est un travail dans un cabinet juridique. » Ça se situe où là-dedans, la correction de poèmes ? Mais tu m'as toujours dit que tu écrivais quand tu étais au lycée. Un journal ? Je rédigeais le journal de l'école. J'écrivais seulement des articles sans aucun intérêt, du style « telle classe a gagné le match de foot, le prof de biologie est tombé dans les escaliers et a été hospitalisé », tu vois. Ne pas confondre avec la poésie. Je ne sais pas écrire de poèmes. Des poèmes, enfin, tu comprends. Ce sont des poèmes pour lycéennes. Pas la peine que ce soit du grand art. Personne ne te demande d'écrire comme Allen Ginsberg. Si tu fais ce que tu peux, ça ira très bien. Ce que je peux, mais je suis absolument incapable de pondre le moindre poème. Ai-je dit sèchement. C'est vrai ça, pourquoi est-ce que j'en écrirais ? Pfff, fit Kumiko d'un ton déçu. Mais un travail dans un cabinet d'avocat, ça n'a pas l'air évident à trouver, hein ? Je suis en pourparlers avec différentes boîtes. J'aurai des réponses dans le courant de la semaine. Si ça ne marche pas, je réfléchirai à nouveau à ta proposition. Vraiment ? Bon, eh bien, n'en parlons plus pour l'instant. Au fait, quel jour sommes-nous ?
Mardi,
répondis-je après un petit temps de réflexion. Tu veux bien passer à la banque et faire un virement pour payer la note de gaz ? Ah, et le téléphone aussi ?
D'accord, je ne vais pas tarder à aller faire les courses pour le dîner. Je ferai ça en cours de route.
Qu'est-ce que tu vas faire à dîner ?
Je ne sais pas encore, ai-je répondu. Je n'ai pas encore décidé. J'y penserai après les courses.
J'ai réfléchi, tu sais, dit ma femme en changeant de ton. Est-il vraiment indispensable que tu cherches du travail ?
Pourquoi ça ? Demandai-je, étonné à nouveau. Pourquoi est-ce que je devrais arrêter de chercher du travail ? Mes indemnités de chômage ne vont pas durer éternellement. Je ne vais pas passer ma vie à me tourner les pouces.
J'ai eu une augmentation de salaire. Mon job d'appoint marche bien aussi, et puis on a assez d'économies. Si on ne vit pas trop luxueusement, on devrait s'en sortir, non ? Ça ne te plaît pas de rester à la maison, comme en ce moment, et de faire le ménage ?
Je n'en sais rien, répondis-je honnêtement. Je ne sais vraiment pas.
À propos, le chat est revenu ?
Alors ça, c'est avant que sa femme ne disparaisse, cet extrait de Chronique de l'oiseau à ressort de Murakami, Haruki Murakami, lu par Damien Le Délésir. On change complètement de sujet avec Fauve. Là encore, c'est une autrice dont on attend maintenant toujours le petit dernier, Mélissa Dacosta, qui a réussi en quelques années à se tailler une place hallucinante dans le domaine littéraire, et pas seulement en Europe, mais partout dans le monde. Elle doit être traduite dans au moins 40 ou 50 langues. Je ne les compte plus. Celui-ci, oui, c'est son petit dernier. Il vient de paraître en audio. On est dans le domaine du cirque, mais pas que. Ce serait dommage de venir enfermer cette histoire-là uniquement dans le cadre d'un chapiteau. On y est souvent avec un être qui a souffert énormément dans sa famille. Il a souffert de la violence du père. Il ne sait comment s'en sortir. Il finit un jour par repérer tout d'un coup un cirque. Et au moment où le cirque s'en va, eh bien, il décide de partir avec eux, fuir cette violence qu'il a toujours connue et qui est peut-être et sans doute la violence qui l'anime, comme celle des fauves, vous savez. C'est pour ça que la corrélation était relativement simple à faire, qui deviennent des jolis gros minous, mais qui n'en restent pas moins des fauves avec la violence qu'on peut leur connaître. Alors c'est apparemment un roman, nous dit un lecteur ou une lectrice de Babelio, qui est traversé par une surdose de virilité malsaine, dominance, rivalité, mépris des femmes, force exhibée comme seul langage possible. Pendant qu'elle écrit, Mélissa Dacosta, pendant qu'elle écrit ce livre, il y a une chanson qui lui revient toujours en mémoire, c'est le groupe Téléphone, « Je rêvais d'un autre monde ».
Sur son banc, le jeune homme se laisse aller, bercé par le va-et-vient énergique des hommes qui accélèrent le mouvement. Au fond de la place, une file de camionnettes et d'authentiques roulottes aux couleurs jaunes et bleues de la compagnie de cirque s'est formée, attendant patiemment la fin de l'opération de démontage. En lettres blanches, sur chacune d'entre elles, on peut lire « Compagnie Pulco ». Puis, en caractères plus petits, « Cirque familial et authentique ». Il perd la notion du temps, somnole quelques instants. Quand il se réveille, ses vêtements et ses cheveux sont trempés. La base jaune et bleue a disparu, pliée par les hommes, chargée à bord du plus gros camion. Les ouvriers hissent les dernières caisses renfermant les éléments de structure métallique. L'homme au costume ridicule noir et or éteint le projecteur. Là-bas, la longue file de fourgons s'anime. Les feux de croisement s'allument, les moteurs tout sautent. La compagnie Pulco est prête à partir. Bon débarras, songe le jeune homme. Des manouches, il y en a bien assez partout. Il grimace en se rendant compte qu'il formule les mêmes remarques qu'André. Son paternel lui a déteint dessus. Non, plutôt crever. Soudain, peut-être à la pensée de son père, il est pris d'une brusque bouffée d'angoisse. L'ivresse l'a anesthésié quelques heures, lui a fait oublier les douleurs dans son corps. Sa lèvre éclatée, et puis son doigt. Il a dû se briser une phalange là où la peau noircit. L'alcool lui a surtout fait oublier l'essentiel. Il ne peut plus remettre les pieds chez lui après cette soirée. Pas avant longtemps. Il connaît André. Il ne lui pardonnera pas de sitôt. C'est pourquoi il a entassé pêle-mêle dans son sac ses papiers d'identité, un cutter, 10 ans d'économie en petites coupures et un anorak. Le premier bus du matin passera dans 5 heures. C'est long. Trop long. Le vent s'est mis à souffler. Des rafales le feront bientôt grelotter. Il se lève dans un sursaut, fait quelques pas précipités. « Eh !» crie-t-il. Sur la place, 2 hommes referment la lourde porte du camion contenant le chapiteau démonté. Celui au costume noir et or fume un gros cigare, insensible à la pluie. Les autres ont tous disparu. Ils ont rejoint les camionnettes et les roulottes, pressés de déguerpir. Bientôt, il ne restera plus personne. Juste une place vide. « Hé !» répète-t-il plus fort. Près du camion, les ouvriers se retournent. « Ouais !» lance l'un des deux en le lorgnant d'un œil noir. « Vous embauchez ?» Un silence. Les 2 hommes échangent un regard, hésitent. Ils répètent, plus pressant. « Vous cherchez de la main-d'œuvre ? Pour monter et démonter le chapiteau ? Distribuer des tracts, vider les poubelles, n'importe quoi ? Vous cherchez des gens ?» L'un d'eux finit par lui désigner le costume noir et or. « Lui, Chavo, demande. » Ce sont les seuls mots qu'il prononce, avec un léger accent slave, avant de se détourner.
C'est un extrait de Fauve de Mélissa d'Acosta et c'est lu par Xavier Bord. Ça promet que ce bouquin, un autre d'Acosta, qui va se vendre comme des petits pains, une durée d'écoute de 15 heures. Beaucoup plus court, mais fichtrement intéressant, j'en suis convaincue à l'extrait que j'ai entendu et quand j'ai lu le résumé, un petit livre très court que je vais m'empresser d'aller chercher, qui s'appelle La vie entière, de Timothée de Fombelle. C'est lu par Edith Proust. Le sujet, oui, m'interpelle parce que je trouve que l'idée est formidable et l'écriture l'est tout autant. Nous sommes un soir à Paris, mais pas n'importe quelle date. Nous sommes en 1942 avec Claire. Claire est résistante pendant la guerre, donc elle attend celui qu'elle aime et elle craint le pire. Elle décide alors, parce qu'elle a tellement peur qu'il n'arrive pas, elle sait ce que ça veut dire, elle décide alors d'écrire l'histoire de leur vie, de leur amour, les enfants, les vacances au bord de la mer. Elle est près de la fenêtre, imaginez une fenêtre à Paris, puis elle est dans la tente avec le bruit des bottes et tout dans la rue. Voilà, elle s'imagine une vieillesse heureuse, elle est dans l'urgence de cette nuit qui ne tient qu'à un fil et cette femme essaie de se sauver par des mots et par une vie rêvée. La vie entière, extrait.
Enfin s'allonger, parler très bas, se retrouver. Le vent dans la fenêtre, la nuit salée et pleine. Tout cela se passera après, parce qu'un jour, un matin, ce sera fini. Les mains vides, la fin de la guerre, la peur évanouie. Il ne reste qu'à être en vie, à boire de l'eau au robinet, à pousser du pied les pommes de pin dans l'herbe. Plus tard encore, je suis vieille, j'imagine. Je raconterai tout aux enfants, ce sont eux qui réclament. La plus petite s'est endormie, la route est longue, c'est la nuit. L'auto est remplie d'enfants. Combien sont-ils sur la banquette arrière? Ils disent « La robe, raconte-nous la robe !» Ils la connaissent déjà par cœur. Je parle en conduisant lentement. Les phares éclairent les arbres des 2 côtés de la route. Je cousais des messages dans les ourlets d'une robe d'été pour les cacher. C'était la guerre, vous savez. Je marchais dans les rues de Paris avec ses secrets. Forteresse légère. Il y a du monde sur les trottoirs. Je n'ai pas peur. On me regarde trop pour me voir. La chaleur, les voitures allemandes qui ralentissent, les regards, les rires. Les cris, mademoiselle, et les vivants cachés dans le revers de ma robe. Je mets ensemble le passé et l'avenir. Je ne fais pas le tri. Je gagne du temps sur la nuit. Peut-être que je reconnaîtrai soudain son pas dans la cour. L'entendre enfin venir, bonsoir, son pas posé sur ma terreur. Il monte. Il ne me regarde pas. Pourquoi m'avez-vous attendu ? Je souris. Je ne dis rien. Je rassemble les feuilles répandues sur la table. Il est là. Le battement de la fièvre sur mes tempes, les cheveux encore collés de cette buée de mots.
La vie entière, je vous rappelle le titre, hein. Je vous rappelle aussi que cette femme, au moment où elle écrit, on est pendant la guerre et elle craint que son ami, résistant comme elle, ne rentre jamais dans cette chambre où elle l'attend. La vie entière donc, lue par Edith Proust, et c'est ainsi que va se refermer l'émission, le balado des livres pleins les oreilles pour cette semaine. Merci de l'avoir suivi et merci peut-être d'aller écouter tous ceux qui ont précédé cet épisode-là. C'est facile, je suis sur absolument toutes les plateformes. Merci Mathieu Tessier, merci Canalem de produire ce balado. C'est Clotilde Seille qui vous dit à la semaine prochaine.